Eh bien, je vais commencer par prendre quelques versets dans Luc au chapitre 10, les versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Lorsque nous devons choisir entre le bien et le mal, c'est assez simple de répondre que nous allons plutôt opter pour le bien. Parfois, nous devons néanmoins choisir entre deux activités qui nous semblent bonnes. Alors pourquoi choisir? Personnellement, je prends les deux. En Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, on lit « Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. » Alors oui, des fois, des choix s'imposent, car souvent, plusieurs opportunités s'imposent à nous et dans un temps donné, un temps simultané. On ne peut pas faire les deux. Alors comment savoir? Ferais-je le bon choix? Dans le passage de Luc que nous venons de prendre, deux femmes, Marthe et Marie de Béthanie, vont être confrontées à ce dilemme. Elles reçoivent Jésus et ses disciples dans leur maison. Marthe s'imagine à juste titre que le maître doit être fatigué et affamé par son voyage, qu'elle doit donc le laisser se reposer, lui faire à manger et prendre soin de lui. Marie, elle, se dit qu'on n'a pas toujours la chance de recevoir Jésus dans sa maison. Elle décide donc de s'asseoir près de lui et d'écouter son enseignement. Alors à leur place, qu'aurions-nous choisi? Servir le Seigneur ou l'écouter? En fait, aucune de ces deux activités n'est mauvaise en soi. Écouter le Seigneur, c'est indispensable pour comprendre et réussir du coup la mission qu'il nous confie. Et le servir, ça nous permet d'accomplir sa mission. Marthe et Marie, elles aiment toutes les deux Jésus et elles se mettent toutes les deux à son service. Mais Marthe vient se plaindre de sa sœur auprès de Jésus car elle estime que la forme de service choisie par sa sœur est inférieure à la sienne. Pourtant, Jésus semble cautionner l'attitude de Marie. Il apportera d'ailleurs une réponse qui nous fait réfléchir et nous aide à comprendre les priorités selon Dieu. Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. » En réalité, Marthe ne se rend pas compte que dans son zèle à servir Jésus, en fait, elle le néglige. Jésus ne lui reproche pas de s'occuper des questions domestiques. Il lui enseigne en revanche qu'un service accompli pour lui peut dégénérer en activisme dénué de véritable amour pour lui. La question à se poser est alors assez simple. Suis-je tellement occupé à travailler pour Christ que je n'ai plus le temps d'être avec lui? La priorité divine, c'est ce qui ne nous sera pas ôté. Veillons, frères et sœurs, à ne pas transformer notre service pour le Seigneur en service pour nous-mêmes. Aussi, nombreuses choses ont de la valeur à nos yeux. Et elles sont souvent nobles, même au regard de Dieu. Elles sollicitent toute notre attention. On peut prendre l'exemple de nos familles, de nos amis, notre travail, nos finances, notre propre personne, etc., etc. Mais alors, comment comprendre quelle sera la juste place à leur donner? C'est pas évident de tout prioriser et de mettre un petit peu d'ordre comme ça dans nos vies, mais j'ai dit tout à l'heure, dans ce partage d'expérience que j'ai pu avoir avec cette jeune fille hier, mais on a vraiment beaucoup de chance en tant que chrétien d'avoir un bon maître comme guide. Et il nous a laissé un mode d'emploi, un enseignement en sa parole vivante. Si on écoute les paroles de Jésus, en Matthieu 6, les versets 31 à 34, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Recherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est lui donner la priorité dans notre vie. C'est nourrir nos pensées et nos désirs. Chercher à lui ressembler, le servir et lui obéir en tout. Jésus est on ne peut plus clair à ce sujet. Il connaît nos besoins et les nombreuses choses qui sont un véritable sujet de préoccupation dans nos vies. Ces nombreuses choses qui sont en concurrence permanente pour obtenir la première place à nos yeux. Mais Jésus nous enseigne de ne pas nous inquiéter du lendemain, que nous devons premièrement focaliser toute notre attention sur Dieu, et ce, dans tous les domaines de notre vie. Aussi, le Seigneur ne nous demande pas d'abandonner toutes les autres choses. Préparer le lendemain en soignant les autres préoccupations et responsabilités que comporte notre vie, c'est du temps bien investi. On prévoit. Mais à l'inverse, s'inquiéter pour le lendemain, c'est clairement du temps perdu. On est toujours dans l'hypothèse, dans quelque chose qui est dont on ne sait pas si ça peut se réaliser et ça demande de l'énergie pour rien. Préparer le lendemain, c'est réfléchir aux objectifs et aux étapes, tout en comptant sur la direction divine. Nos plans ne viennent alors pas troubler notre relation avec notre Seigneur. Car notre relation avec Dieu existera toujours, que ce soit de notre vivant jusqu'après notre mort. Elle doit bien constituer notre priorité absolue. Ensuite, nous sommes nous-mêmes, et nous ne devons pas l'oublier, une priorité, celle-là même qui arrive au second plan. Nous sommes en effet appelés à prendre soin de notre âme et de notre spiritualité et maintenir notre santé physique. Alors je vous propose de parcourir le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. Et puis on va commencer les versets 1 à 21 dans un premier temps. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soient même pas mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Faites donc bien attention à la façon d'où vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Quand certains ont déjà essayé de m'expliquer, dans mes collègues et amis, que la Bible, c'est un enseignement qui délivre de grandes idées qu'on peut interpréter comme on veut, on a ici un exemple quand même où on nous explique relativement précisément comment on doit agir et aussi comment on ne doit pas agir. En tout cas, ici, l'apôtre Paul nous exhorte à mener une vie exemplaire afin que les autres, ceux qui n'ont pas reçu la parole, comprennent les bontés que Dieu a manifestées en nous. Dieu veut que nous recherchions la justice et il nous appelle à la défendre dans l'amour. Paul nous rappelle l'importance d'agir avec sagesse et de faire le bien à chaque fois que nous en avons l'occasion. Notre manière d'agir devrait refléter en permanence notre foi. Puis si nous poursuivons dans notre priorisation dans des éléments de notre vie, prenons 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi. Il est pire qu'un non-croyant. Ici, l'affirmation est claire. Les relations familiales sont si importantes aux yeux de Dieu que négliger nos responsabilités dans ce domaine revient à renier notre foi. Et notre famille, ça comporte quand même plusieurs membres. Alors, est-ce que on met en premier plan nos enfants, nos conjoints, nos parents ? Eh bien, reprenons l'épître aux Éphésiens, les versets 22 à 33. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau froide, par l'eau de la parole. Pour faire disparaître devant lui cette Église glorieuse, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Alors, il convient de constater ici que si on suit le déroulement de cet épître, et en tout cas de ce chapitre, nous prioriserions en premier lieu notre conjoint. Nous retrouvons d'ailleurs dans ces versets un excellent rappel des actes d'amour et de sacrifice de notre propre personne qui se retranscrit dans la façon dont nous sommes appelés à bâtir notre relation avec notre conjoint. C'est ainsi qu'un foyer sain représente la meilleure formation possible pour notre priorité suivante, nos enfants, le fruit de cette union sacrée. Chapitre 6 de Éphésiens, les versets 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Ainsi, les parents doivent apprendre à traiter leurs enfants avec amour et patience, à l'image de la façon dont Christ traite ceux qu'il aime, en créant un climat de réciprocité de ses valeurs. Cela est essentiel pour le chrétien pour développer l'action du Saint-Esprit en lui, mais aussi pour l'enfant, pour son développement et sa découverte de qui est Christ. En Hébreux 10, le verset 25, nous lisons: N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. L'homme n'a pas été créé pour rester seul. Nous avons besoin, en plus de notre foyer proche, de grandir ensemble dans la foi avec nos frères et sœurs en Christ. Ça nous permet de nous encourager mutuellement et de nous fortifier les uns les autres. L'Église, elle permet également d'adorer ensemble le Seigneur pour lui adresser des louanges qui lui sont agréables. Ne négligeons pas notre Église. Faisons aussi notre Église une priorité dans nos vies. C'est important. Enfin, et même si bien d'autres priorités sont placées avant, notre travail en reste une dans notre vie. La Bible, et on retrouve par exemple dans Exode, au chapitre 31, le verset 15, un passage qui parle du travail. Pendant 6 jours, on travaillera, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Toute personne qui accomplira un travail le jour du sabbat sera punie de mort. Ce temps d'activité est absolument nécessaire dans notre vie, ici et maintenant, pour participer à la vie de la société, mais aussi pour nos finances qui nous permettent de subvenir aux besoins de notre personne, de notre famille. Et ne l'oublions pas, de notre Église. Ce temps nous est donné par Dieu, mais dans un cadre qui nous appelle également à prendre un temps de repos. D'où l'importance pour avoir la possibilité de se ressourcer physiquement et spirituellement et nous consacrer pleinement aussi à notre priorité absolue, qu'est Dieu. Si nous trouvons dans la Bible des indications et des pistes de réflexion sur la manière d'organiser nos priorités, cet ordre, à l'exception de la première qui restera en tout temps notre priorité prioritaire, Dieu, dépendra évidemment des temps dans lesquels nous nous trouvons. Si nous reprenons l'exemple de Marthe et Marie, Jésus a bien fini par arrêter d'enseigner Marie et ses disciples pour manger le sûrement très bon repas que lui avait préparé Marthe, vu le temps qu'elle a passé à ce service. Définir ses priorités à chaque période de sa vie nous permet de savoir ce que nous devons faire selon l'instant et nous remémore la nécessité de nous tourner en permanence vers notre Seigneur pour comprendre ce qui est le plus juste à ses yeux, ce qu'il attend réellement de nous. Nous pouvons aussi prendre l'exemple d'une femme qui vient d'avoir un enfant Mais oui, ce petit être réclame, et à juste titre, toute l'attention de ses parents. Mais si cette attention accrue perdure dans le temps, cela se fera au détriment de l'attention que les conjoints auront l'un pour l'autre. La relation de couple en souffrira, et alors toute la famille avec. Et alors probablement, quand il y a des tensions dans son propre foyer et que tout semble désorganisé, ça impactera aussi nos relations en dehors de notre foyer, dans l'église, avec nos amis, avec nos collègues, et plein d'autres relations que nous pouvons avoir. Tout en sera impacté. Connaître les priorités selon Dieu, c'est ce qui nous permet de bien ordonner notre vie et d'éviter de nous disperser, d'être à la bonne place au bon moment. Notre vie de chrétien nous conduit à demeurer à l'écoute du Saint-Esprit pour maintenir le juste équilibre dans nos vies et produire du bon fruit dans un service effectif et efficace rendu à la gloire de Dieu. Alors loué soit le Seigneur qui agit dans nos cœurs, qui nous corrige et qui nous montre le chemin. Amen.